Il est 7h sur Radio de la Paix. Tout de suite, nous retrouvons Paul-Bénédicte Bolou pour le journal. Bonjour Paul.
Bonjour Sonia Nzian, bonjour à tous. Bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce lundi 1er avril. Renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire à travers le processus électoral de 2018, transparent, inclusif et apaisé. Au terme de l'observation de ce cycle, la POSI a présenté le vendredi 29 mars dernier à Cocody le communiqué de presse aux partis politiques, aux organisations de la société civile et à la presse. Paix et cohésion sociale, les fidèles des différentes confessions religieuses de la cité des Antilopes, à savoir musulmans et chrétiens, ont prié pour la cohésion et la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire du vendredi 29 au samedi 30 mars 2019. On en parle dans ce 7h. Un plan de rénovation et d'extension de plusieurs aéroports est actuellement en cours. L'information a été révélée ce week-end à Yamoussoukro par le ministre ivoirien des Transports. La raison, la Côte d'Ivoire veut être un hub au niveau aérien dans la sous-région et en Afrique subsaharienne. Hors de la Côte d'Ivoire, le président Abdelaziz Bouteflika a nommé hier dimanche un nouveau gouvernement conduit par Noureddine Bédoui, désigné Premier ministre le 11 mars dernier et composé de 27 ministres, dont 8 de l'ancienne équipe selon une liste officielle diffusée par l'agence de presse officielle juste après l'actualité internationale et la revue des titres de presse de vos quotidiens présentée par Jean-Claude Comé. Nous aurons en fin d'édition comme invité de la rédaction Ali Ouattara, président du réseau Equitas Côte d'Ivoire. Il répondra aux questions de Junior Cardin. Voilà pour l'essentiel. La plateforme de l'Organisation de la Société Civile pour l'Observation des Élections en Côte d'Ivoire, POSI, avec le soutien technique et financier du NDI et de l'USAID, a effectué des activités pour la mise en œuvre de son projet intitulé « Appui de la POSI au renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire » à travers le processus électoral de 2018, transparent, inclusif et apaisé. Au terme de l'observation de ce cycle électoral, la POSI a présenté le vendredi 29 mars 2019 dans la commune de Cocody le communiqué de presse aux partis politiques, aux organisations de la société civile et à la presse. Suivons un extrait de ce communiqué de presse lu par le secrétaire général de la POSI, Adjumani Kwame Pierre.
Que ces différents scrutins et opérations d'enrôlement se sont déroulés dans un contexte de cristallisation du climat politique, d'absence de pluralité de candidatures, du fait du refus de l'opposition d'y participer et de contestation de la commission électorale indépendante chargée de mener à bien le processus électoraux. Les pertes en vies humaines et la destruction des biens publics et privés sont venus rappeler la précarité de l'environnement sociopolitique et la persistance des tensions entre les acteurs politiques. Suite à la réalisation de ces activités d'observation au cours du processus électoral de 2018, la POSI publiera son rapport d'observation en mettant l'accent sur certains des points essentiels à l'attention aussi bien des gouvernants, des partis politiques, de la société civile que de la commission électorale indépendante. De son analyse, les discussions pour la réforme électorale du cadre institutionnel et juridique doivent se poursuivre dans un cadre tripartite afin d'aboutir à une commission électorale consensuelle, indépendante et impartiale pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire.
Adjumani Kwame Pierre, secrétaire général de la plateforme de l'Organisation de la Société Civile pour l'Observation des Élections en Côte d'Ivoire. Parlons toujours paix et cohésion sociale. Nous nous rendons à Daloa. Les fidèles des différentes confessions religieuses de la cité des Antilopes, à savoir musulmans et chrétiens, ont prié pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire du vendredi 29 au samedi 30 mars 2019. Prière, lecture de Saint-Coran et des sacrifices ont été les temps forts de cette cérémonie d'innovation à la paix pour la Côte d'Ivoire. Les détails avec Jean-Claude Mabéa.
Parrain de ces journées de prière pour la paix, le sénateur Touré Lanciné, par ailleurs chef des communautés venues d'autres régions de Côte d'Ivoire, situe ici l'objet de cette commémoration.
Compte tenu de la situation sociopolitique du pays, alors nous avons pensé qu'il fallait absolument faire les lectures coraniques dans les mosquées. Nous avons aussi eu des révélations aussi des confessions religieuses. Comme nous tenons tous à la paix sociale comme la première de nos yeux, nous avons donc organisé ces prières-là et nous avons immolé aussi des bœufs pour que Dieu entende notre voix, nos pensées et nous protège. Que nous nous aimions, que nous ayons un comportement de paix. Le pays en a vraiment besoin.
Une telle action de haute portée spirituelle est une nécessité, comme nous l'indiquent des guides religieux.
Docteur Tichi Junior, secrétaire général adjoint de la plateforme des guides et leaders religieux de Daloa. Chez nous, il n'y a pas de barrière, le musulman et le chrétien. D'après, il répond au souci d'apaisement des cœurs. Tout le monde attend 2020. Les élections vont venir, il y a des rumeurs qui passent, il y a des suspicions ici et cela, il y a des rancœurs. Donc nous voulons le désarmement des cœurs, des esprits, des pensées, pour que effectivement tout le monde se donne la main et que nous puissions penser une Côte d'Ivoire de paix durable.
Imam Touré Alpha, chaque fois que nous avons des troupes qui menacent la paix, il faut faire des sacrifices, faire des invocations, les prières. Allah nous donne la paix dans notre beau pays.
Tous souhaitent que de telles initiatives puissent effectivement contribuer à maintenir et à consolider la paix et l'unité nationale.
Allons dans la région du Bounkani où le calme est revenu, bien revenu, après des tensions entre communautés suscitées par des rumeurs autour du phénomène de la disparition des sexes. Après près de 16 plaintes déposées par des populations, le substitut du résident près du tribunal de Bouna a réuni dernièrement les responsables des communautés, les élus locaux et les autorités administratives des différents départements de Bounkani pour trouver des solutions autour de ce phénomène qui risquerait de mettre en danger la cohésion sociale. Les résolutions prises lors de cette rencontre avec le magistrat Étienne Thiemélé, substitut résident près de la section du tribunal de Bouna.
J'ai jugé nécessaire de réunir toutes les différentes couches sociales de la région pour pouvoir aborder ensemble le sujet et échanger sérieusement sur la question et puis pouvoir trouver des solutions et puis faire connaître la position du parquet pour prévenir les fausses rumeurs et le faux bruit qui courait et qui créait beaucoup plus de mal même que le phénomène lui-même. Au cours donc de cette réunion, 4 résolutions ont pu être retenues. La première résolution, c'est que les éventuelles victimes de disparition de sexe doivent éviter de se rendre justice elles-mêmes. Elles doivent éviter de provoquer des attroupements parce qu'il y a des personnes qui ont failli être lynchées pour avoir été accusées de faire disparaître des sexes. Elles doivent plutôt saisir les autorités traditionnelles ainsi que les autorités administratives, les unités de police ou de gendarmerie et les autorités judiciaires. La deuxième résolution, s'il y a effectivement des personnes qui s'adonnent à cette basse besogne, il fallait qu'elles arrêtent. Sinon, la loi s'appliquerait à ces personnes-là dans toute sa rigueur. La troisième résolution, quant à ceux qui font courir les faux bruits parce qu'il y en avait beaucoup, c'est pour dire qu'il y avait une véritable psychose créée volontairement par certaines personnes. La dernière résolution, elle concernait la question de sécurité dans toute la région de Boukani.
C'était l'intervention du magistrat Étienne Thiemélé, substitut résident près de la section du tribunal de Bouna, joint par Junior Cardin. Abordons le deuxième bloc de ce 7 heures. La Côte d'Ivoire veut être un hub au niveau aérien dans la sous-région et en Afrique subsaharienne. Un plan de rénovation et d'extension de plusieurs aéroports est actuellement en cours. L'information a été révélée ce week-end à Yamoussoukro par le ministre ivoirien des Transports. C'était à l'occasion de la cérémonie de baptême de la deuxième promotion des élèves pilotes formés à l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Écoutons le ministre Amadou Koné au micro de Radi Razak Wilfried.
Nous voulons que la Côte d'Ivoire devienne un hub au niveau aérien dans la sous-région, mais au-delà en Afrique subsaharienne. Donc nous sommes en train d'y travailler. Le gouvernement met en place donc, les infrastructures. Nous accompagnons aussi, grâce aux efforts des uns et des autres, notamment de l'Institut, la formation. On a des ambitions très fortes par rapport au secteur aérien. Nous avons en ce moment signé pour l'agrandissement de l'aéroport de Korogo. C'est là que ça a commencé. Nous allons commencer d'autres aéroports à l'intérieur du pays. Nous envisageons d'ouvrir des lignes donc, à l'intérieur du pays. On a un vaste programme de réhabilitation, d'agrandissement donc, des aéroports en cours. Et le plus important donc, de ces travaux d'extension, c'est l'aéroport d'Abidjan. Donc les discussions sont très bien avancées. Nous sommes en train d'y travailler pour que nous commencions le plus rapidement possible. En tout cas, avant la fin de cette année, que nous puissions signer les accords nécessaires donc, au démarrage des travaux d'extension de l'aéroport d'Abidjan.
Amadou Koné, ministre ivoirien des Transports. Les pays de l'espace Suède qui veulent tirer profit de l'autonomisation de la femme et du dividende démographique ont refermé la quatrième rencontre de leur comité de pilotage le samedi dernier à Abidjan. À cette occasion, l'appui des partenaires dont la Banque mondiale a été sollicitée en réaction et au nom de cette institution, Christophe Lumière a tenu à rassurer les États membres du Suède. On écoute Christophe Lumière au nom du représentant de la Banque mondiale Côte d'Ivoire.
On a pu voir des résultats très forts en 2018, y compris des résultats en termes d'impact, comme on a pu l'illustrer avec les effets sur la scolarisation des filles. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très positif et je souhaite qu'on puisse continuer dans cette voie, au moins pour cette année 2019 et éventuellement 2020. J'ai bien entendu le message venant de toutes parts concernant l'idée d'une deuxième phase du projet. C'est effectivement quelque chose que la Banque mondiale envisage. On a eu l'occasion d'en parler, à la fois avec l'intégration de nouveaux pays et puis bien entendu avec la mise à l'échelle des actions déjà entreprises dans les pays qui sont aujourd'hui dans l'espace Suède, y compris le Bénin qui nous a rejoints au mois de janvier. Je voulais simplement insister sur la priorité absolue qui est celle de maximiser les résultats. On a cette chance de pouvoir s'appuyer sur plusieurs années d'expérience. Il faut en tirer le profit maximum et il faut aussi essayer de cibler le plus possible les appuis qui pourront être donnés puisque j'ai bien conscience que les besoins sont gigantesques et même en mobilisant d'autres financements, il n'empêche qu'il faudra effectivement prioriser ces appuis, notamment sur le plan géographique.
Christophe Lumière, représentant de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, saisi de 18 000 tonnes de riz avarié au port autonome d'Abidjan. Les résultats des analyses des échantillons de ce riz effectués par un laboratoire accrédité agréé dans le cadre du programme de vérification de conformité des marchandises à destination de la Côte d'Ivoire sont non conformes à la norme ivoirienne, écrit le ministre dans un communiqué. En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 15 juin 2016 relative à la répression des fraudes et des falsifications en matière de vente des biens ou services, il est procédé à la saisie réelle et à la mise sous scellé de ces 18 000 tonnes de riz birman et au déclenchement de la procédure de destruction selon Souleymane Dirassouba, le ministre ivoirien du commerce. Pour le président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire qui salue la créativité, la réactivité du ministère du commerce a dit attendre la cérémonie de destruction effective de cette quantité de riz avarié qu'on écoute Jean-Baptiste Kofi.
C'est une excellente nouvelle. Souvenez-vous que ce sont les organisations de consommateurs qui ont alerté nos autorités de ce que du riz d'une qualité qui est contestée par d'autres pays est arrivé dans notre pays. Donc c'est suite à notre interpellation que le ministère du Commerce a pris le dossier en main et demandé à ce que la direction générale du port nous reçoive pour nous donner toutes les informations sur la procédure d'importation en Côte d'Ivoire et nous montrer que des dispositions sont prises finalement pour la sécurité des consommateurs. Et cette rencontre a eu lieu. La décision majeure, c'était que le riz est arrivé effectivement et était dans les entrepôts de la douane. Le temps d'effectuer des contrôles. Alors, d'habitude, quand on importe, il y a des contrôles qui se font, mais pour cette variété de riz, le ministère du Commerce a demandé la liste complémentaire. Donc, je crois que ces résultats sont parvenus finalement au ministère et nous avons entendu dans le communiqué la position du ministère disant que le riz était saisi, donc devait être détruit. Donc, nous nous réjouissons de cette réactivité de notre ministère et nous nous réjouissons également de la coopération de toute l'administration parce que le riz a été gardé par la douane et nous attendons maintenant d'être conviés à cette cérémonie de destruction qui va rassurer davantage tout le monde.
Parlons toujours de ce riz. L'État ivoirien a mis en place depuis le 15 février 2019 un dispositif de contrôle de conformité pour la protection des consommateurs, a rappelé le ministre du Commerce dans son communiqué sur le déclenchement de la procédure de destruction de ce riz. Écoutons également la réaction de Doukouar Godé, le président de la Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire.
Nous félicitons le gouvernement et le ministre du Commerce à travers cette décision qui est très forte. Il fallait prendre cette décision-là parce que nous nous sommes dit que ce riz qui jusque-là était douteux, puisqu'on n'avait pas la preuve de sa qualité,
avait été refusé dans tous les ports de la région, notamment à Conakry et à Lomé. On était fortement surpris que ce riz soit débarqué au port d'Abidjan. On nous a dit que les analyses allaient être faites et à la suite de ces analyses-là, le stock, s'il s'avérait que le riz était effectivement de mauvaise qualité et impropre à la consommation, on allait procéder à la destruction de ces 18 000 tonnes. Donc nous sommes rassurés. Seulement nous disons qu'à partir du moment où l'État a pris cette décision et l'État en amont avait organisé une réunion officielle avec tous les partenaires pour montrer le riz, rassurer les populations que le riz n'était pas encore sorti du port, il était sous douane, il était en entrepôt. Et on nous a fait visiter ces différents stocks de riz. Maintenant que la décision est prise, nous pensons que dans la même dynamique, il serait souhaitable que la destruction se fasse de manière officielle et transparente devant tout le monde pour dire aux populations que le gouvernement n'a rien à cacher.
Doukoua Godé, le président de la Fédération des associations des consommateurs de Côte d'Ivoire. En page internationale, en Algérie, nouveau gouvernement de 27 membres, dont 8 de l'ancienne équipe. Le président Abdelaziz Bouteflika a nommé hier dimanche un nouveau gouvernement conduit par Noureddine Bédoui, désigné Premier ministre. Le 11 mars dernier, Ramtane Lamamra, nommé vice-premier ministre, ne figure pas dans la liste. Il aurait fallu environ 20 jours à Bédoui pour constituer ce gouvernement. Un probable record en Algérie. Il avait promis un gouvernement de démocrates puisant dans les jeux compétences hommes et femmes de l'Algérie. L'équipe ne compte pourtant que 5 femmes, dont 3 figuraient déjà dans l'ancien gouvernement pour 23 hommes. Investiture du président Macky Sall du Sénégal ce lundi. Environ 15 personnalités de premier plan assisteront à cette cérémonie. On peut citer le président ivoirien Alassane Ouattara, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Georges Weah du Libéria, Roch Marc Christian Kabore du Burkina Faso, Adama Barrow de la Gambie, Denis Sassou Nguesso du Congo, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Le président de la République française, selon l'agence de presse africaine, sera représenté par Ségolène Royal. Le président américain Donald Trump aurait décidé d'envoyer une forte délégation pour assister à l'investiture. Elle sera conduite, dit-on, par l'administrateur de l'USAID, Marc Gruen. À l'instant, la revue des titres de vos quotidiens présentée par Jean-Claude Comé. Bonjour.
Bonjour Paul Bénédicte, bonjour à tous. Nous sommes le 1er avril aujourd'hui et comme en a l'habitude la presse, la tradition du poisson d'avril oblige. Les informations véridiques se mêlent à celles qu'il faudrait prendre avec des pincettes. N'empêche, certaines informations sont relayées par plusieurs journaux comme Fraternité Matin qui parle à sa une de l'ouverture ce lundi de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, session qui marque la présence officielle, la présidence donc, j'allais dire, officielle d'Amadou Soumaoro, élu le mois dernier à la tête de cette institution. Amadou Soumaoro, qui à la une de l'Intelligent d'Abidjan, estime qu'il n'a plus d'adversaires et d'ennemis. Cette rentrée parlementaire verra la présence du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui parle aux Ivoiriens, affiche le jour plus. Qui, à part cette information, consacre le reste de sa une à l'actualité politique, notamment aux activités du mouvement PDCI Renaissance et du RHDP, et qui fait une offensive sur le terrain, selon Soir Info, qui publie ses propos du vice-président d'Incan, président du PDCI Renaissance, qui déclare « Quand on croit à une vérité, il faut s'y attacher, même désespérément ». Ce journal parle de Zié Daouda, qui fait basculer 74 sections du PDCI au PDCI Renaissance et cette réplique d'Edjampan, vice-président du PDCI, qui affirme que ceux qui sortent par la fenêtre du parti reviendront. Le patriote qui se fait aussi l'écho des activités du RHDP affiche péremptoire Trècheville, Ferke, Tiébissou, Issia, Miyagi, Béoumi, RHDP se le mettre à bord. L'expression dans la même lancée écrit qu'à l'occasion de l'investiture du maire de Tiébissou, le Tchéoui confie son développement au RHDP. Quand le rassemblement estime, lui, que les chefs du grand centre sont pour la paix et le développement, Pendant que le Nouveau Réveil parle de la restructuration de la base du PDCRDA et propose à ses lecteurs la carte complète des 338 délégations du parti. À la une de Notre Voix, après l'échec de la rencontre Gbagbo Afi à Bruxelles, Diabaté Bey, proche de Afinguessan, dit ses quatre vérités. C'est ce qu'affiche le confrère quand le temps écrit avant son arrivée. Le parti de Gbagbo donne des nouvelles de Bruxelles. Génération Nouvelle suit, lui, les traces de Soro Guillaume qui investit les villages du Nord. C'est ce que affiche ce journal. Affaire 18 000 tonnes de riz avarié, le gouvernement confirme qu'il y a danger, écrit le Nouveau Réveil. Pour Génération Nouvelle, qui parle de destruction de ce riz, ce journal estime que le gouvernement est sous pression. Quant pour le Patriote, par contre, sur cette affaire, le gouvernement apporte des assurances.
Merci, il était avec nous pour la revue des titres de vos quotidiens. Jean-Claude Comet, que vous retrouverez à 8h. La pratique de la torture est une réalité en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays africains de l'espace francophone. Le réseau Equitas Côte d'Ivoire en est arrivé à cette certitude après un programme de 5 ans de 2015 à 2019 mené sur la question « Qu'est-ce qu'une torture ? Comment amener les États à y mettre fin ?» Pour répondre à toutes ces questions et pour bien d'autres, Ali Ouattara, président du réseau Equitas Côte d'Ivoire, est notre invité de la rédaction, y répond aux questions de Junior Cardin.
Ali Ouattara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du réseau Equitas Côte d'Ivoire et vous venez donc de sortir d'un atelier de réflexion par rapport donc à un programme prévention de la torture dans la francophonie. Ce programme, pourquoi ?
Ce programme, c'est que après des études et des analyses, nous sommes rendus compte au niveau des pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest qu'il y avait cette pratique-là, malheureusement, dans nos différents États. Et donc, nous avons constitué ensemble un programme et appuyé par Equitas Canada pour que nous puissions, dans cet espace francophone-là, à travers ces 7 pays-là, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Cameroun, le Sénégal, la RDC, le Burundi et le Rwanda, donc dans ces différents pays-là, faire un travail de prévention contre la torture, justement.
Et c'est quoi la torture ?
Il s'agit notamment d'infliger une souffrance, aussi bien morale que physique, à un individu par un agent étatique dans le but de lui extorquer des aveux.
Quelle présentation vous pouvez faire de ce programme ?
Il s'agissait pour nous, de façon pratique, à travers donc des activités menées dans cet espace-là, de pouvoir sensibiliser aussi bien les acteurs étatiques comme nous étatiques à la prévention de la torture. Également profiter pour faire du plaidoyer pour les autorités étatiques, pour que les États où la convention n'a pas été ratifiée puisse être faite, pour que les États où ça a été ratifié, que le protocole facultatif de la convention contre la torture puisse également être ratifié, ce qui permettrait à les ONG de pouvoir visiter les lieux de détention, dans les conditions de tension, également de pouvoir porter individuellement des peines contre un État auprès des Nations Unies au niveau du comité contre la torture.
Et ce programme a duré combien de temps et quels sont les différents secteurs que vous avez pu visiter dans vos investigations ?
De plan pratique, ça fait 4 ans, de 2015 à 2019. Mais il a commencé un peu en amont. Mais dans la phase pratique, c'est de 2015 à 2019. Il prendra fin réellement à la fin du mois de mars. Et donc, nous avons visité beaucoup de secteurs, comme vous le dites, à travers déjà la formation des organisations de défense des droits humains. Chaque 2 ans, nous avons donc organisé des sessions sous-régionales dans des pays bien ciblés de l'espace francophone. Au cours de ces formations-là, nous formons à la prévention contre la torture, à d'autres modules, bien sûr. En plus des ONG, des acteurs de la société civile, nous y associons également des gens des différents ministères concernés justement par la pratique de la torture, notamment les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police, les ministères concernés, le ministère de la justice.
Quels sont les résultats obtenus ?
Il y a par exemple 200 000 auditeurs que nous avons sensibilisés sur la ratification du protocole facultatif, donc l'OFCAT. Il y a les capacités de 27 personnes qui ont été renforcées sur les instruments juridiques relatifs à la prévention contre la torture à Boaké, pour être précis. Il y a 597 personnes, dont 398 femmes et 199 hommes, qui ont participé à la journée de mobilisation sociale pour la ratification du protocole facultatif à Abidjan.
Dans les pays concernés par ce programme, les résultats, comment vous les trouvez ? Satisfaisants ou beaucoup reste à faire selon vous ?
Bien sûr, c'est satisfaisant, mais il faut le dire, beaucoup reste à faire. Parce que justement, beaucoup de personnes pratiquent la torture sans se rendre compte que c'est la torture qu'ils font. D'où la nécessité d'élargir cela à non seulement les différentes prisons, les détentions, mais les violons également, et pouvoir introduire dans le curriculum, donc les modules de formation au niveau des écoles des forces de l'ordre, il faut qu'on puisse introduire souvent ces différents modules-là de prévention contre la torture.
Et comment vous jugez la Côte d'Ivoire aujourd'hui par rapport donc à cette pratique de la torture? Est-ce un bon élève, un élève moyen ou un mauvais élève?
Bien, je n'irai pas dans ce sens-là, mais je dirais que la pratique de la torture est une réalité en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nous qui le disons. Il y a eu des enquêtes de la Commission nationale des droits de l'homme, il y a eu des enquêtes de la CDVR, il y a eu également d'autres rapports d'ONG comme par exemple le MIDH, comme Human Rights Watch et autres, à Amnesty International, qui l'attestent. Donc la pratique de la torture est une réalité en Côte d'Ivoire.
D'accord. Dans le cadre de votre programme, des recommandations sont sorties. Vous pouvez partager ces recommandations avec nous?
La première recommandation, c'est que nous souhaitons que ce travail de sensibilisation, de formation, soit étendu à une plus grande couche de la population. D'où la nécessité de pouvoir faire la prévention contre la torture en langue locale. Ça pourrait permettre de toucher le plus grand nombre de personnes. Notre recommandation, c'est justement créer des points focaux au niveau des ministères, également des lieux de détention, dont ces personnes-là seront des personnes de ressources dans le cadre du travail contre la torture. Également, c'est de faire en sorte qu'on puisse introduire dans les modules de formation, justement, ce travail de prévention contre la torture.
Est-ce que vous avez un message à l'endroit, aussi bien des populations que des gouvernants, par rapport donc à ce phénomène de torture?
Je voulais préciser que souvent, il y a des pratiques qui sont usitées, et ces pratiques-là, on a l'impression que c'est la torture, mais pourtant, c'est pas la torture, c'est plutôt des mauvais traitements. Souvent, ça peut être extrêmement cruel, dégradant ou humiliant. La pratique de la torture, ça concerne essentiellement des agents étatiques dans le but d'extorquer des aveux. Et il faut demander d'abord aux autorités, au plus haut niveau politique, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse ratifier le protocole facultatif à la Convention contre la torture. C'est un protocole qui permettra donc aux jeunes de pouvoir visiter les lieux de détention. Également à tout individu de pouvoir porter plainte au niveau du comité contre la torture au niveau des Nations Unies à Genève. Dans les écoles primaires, secondaires, dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, l'éducation aux droits humains, cette discipline-là, il faudrait également qu'on puisse introduire un module dans le cadre de la prévention contre la torture.
Ali Ouattara, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
C'est sur cet entretien que se referme cette édition, mais avant de nous séparer, c'est qui en a fait l'essentiel. Renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire à travers le processus électoral de 2018 transparent, inclusif et apaisé. Au terme de l'observation de ce cycle, la POECI a présenté le vendredi 29 mars dernier à Cocody le communiqué de presse aux partis politiques, aux organisations de la société civile et à la presse. Paix et sous cohésion sociale, les fidèles des différentes confessions religieuses de la cité, des antilopes à savoir musulmans et chrétiens, ont prié pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Le vendredi 29 mars au 30 mars, on en parlait il y a un instant. Un plan de rénovation et d'extension de plusieurs aéroports est en cours actuellement. L'information a été révélée ce week-end à Yamoussoukro par le ministre ivoirien des Transports. La raison, la Côte d'Ivoire veut être un hub au niveau aérien dans la sous-région et en Afrique subsaharienne. Hors de la Côte d'Ivoire, le président Abdelaziz Bouteflika a nommé hier dimanche un nouveau gouvernement conduit par Noureddine Bédoui, désigné premier ministre le 11 mars dernier, et composé de 27 ministres, dont 8 de l'ancienne équipe selon une liste officielle diffusée par l'agence de presse officielle. Fin de cette édition. Je serai dès votre à 8h pour un autre point de l'actualité. Pour l'heure, Sonia Ndian revient dans les matins de la paix qui a démarré à 6h45 et c'est sur Radio de la Paix.